Que Seigneur Esprit Saint vient visiter ces lieux, visiter nos cœurs, nous donner ta paix. Viens conduire cette prière, viens conduire mon enseignement. Donne-nous tous tes dons pour la gloire du Père et pour le salut du monde, pour que nous puissions transmettre l'amour du Christ et manifester sa gloire au milieu de nous. De l'Évangile selon Saint Luc au chapitre 23 au verset 35. Le peuple se tenait là à regarder. Les chefs, eux, se moquaient. Il en a sauvé d'autres, disait-il. Qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ de Dieu, l'élu. Les soldats aussi se gaussèrent de lui, s'approchant pour lui présenter du vinaigre. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui, celui-ci est le roi des Juifs. Voilà, donc vous aurez reconnu un passage de la Passion de Jésus, quand il est sur la croix, que tout le peuple, tout le monde est devant, et Jésus, sur la croix, est en train d'agoniser dans des souffrances terribles. Et non seulement il souffre, mais ceux qui sont autour de lui se moquent de lui, le ridiculisent, le provoquent. Toute la haine qu'il y a dans leur cœur jaillit et se manifeste à ce moment-là dans ces provocations, notamment les chefs, les prêtres et les soldats. Et notamment, ils lui disent, ils se moquent de lui en disant, « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Et on retrouve là les mêmes provocations que le diable avait fait à Jésus au moment des tentations au désert. Il disait, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Dis que ces pierres deviennent du pain. C'est le diable lui-même qui habite le cœur de ces hommes qui ont la haine dans leur cœur. Quand on a la haine dans son cœur, c'est le diable qui vient aussi en nous pour nous exciter. On est libre, ils auraient très bien pu ne pas le faire. À partir du moment où notre cœur devient mauvais, le diable se précipite dans notre cœur pour pouvoir faire le mal avec nous. Et précisément, Jésus ne veut pas se sauver lui-même. Il a sauvé les autres, comme ils le disent, mais il ne veut pas se sauver lui-même. Il aurait pu le faire. Il aurait pu faire des signes de puissance, il dispose de toute la puissance de Dieu, de son Père, il peut anéantir tous ceux qui sont devant lui d'un seul regard. Mais non, le Christ a décidé d'offrir sa vie sur la croix pour nous sauver. La Trinité Sainte, toute la Trinité Sainte a décidé cela. A décidé que quand viendrait le moment et qu'on voudrait le persécuter, le tuer, quand l'heure sera venue, Jésus donnera sa vie pour nous. Et donc nous avons ici notre Dieu qui accepte d'être humilié par des hommes dévoriens, si j'ose dire, des pauvres pécheurs, des personnes endurcies et qui ne répond pas aux insultes. Il ne répond pas alors qu'il souffre terriblement. Et paradoxalement, cette manière de faire, eh bien, manifeste qu'il est Dieu. On pourrait se dire si... Quand les hommes pensent à Dieu, ils se disent, ben, Dieu c'est quelqu'un qui, quand on l'énerve, il envoie des éclairs, et puis boum, il fait péter ses ennemis, il les détruit. Même des psaumes qui le disent d'ailleurs. Et bien, la plus grande manifestation de la puissance de Dieu, elle est dans Jésus sur la croix. Parce que cette manifestation de puissance, c'est l'amour infini du Seigneur. Vous pouvoir continuer d'aimer dans de telles souffrances et sous de telles moqueries. Voilà comment Dieu a décidé de nous manifester sa puissance, et non pas en envoyant le tonnerre, comme Jacques et Jean le voulaient, ou les éclairs sur ceux qui ne veulent pas accueillir le Seigneur. On présente à Jésus du vinaigre, on l'abreuve quelque part de toute la saleté de notre cœur. Le vinaigre, ça symbolise un peu tous nos péchés, toute la saleté de nos vies. C'est ça que Jésus boit, cette eau sale. Et il le provoque en disant aussi, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Et c'est vrai que Jésus est le Messie. Messie, ça veut dire roi. Il est le roi des Juifs, mais il n'est pas le roi des Juifs comme ceux qui l'insultent veulent qu'il soit le roi des Juifs. Il n'est pas un roi politique. Il n'a pas voulu s'imposer par des armées, par un pouvoir politique. Il n'a pas voulu entrer même dans la sphère politique, même si ce qu'il dit a une influence sur la dimension politique. Quand on dit « aime ton prochain comme toi-même », ça a aussi une influence en politique. Pas dire en politique « moi je déteste les autres ». Donc ça a une influence sur tout, mais Jésus n'a pas voulu entrer en politique, n'a pas voulu en faire. Rendez à César ce qui est César, et à Dieu ce qui est à Dieu, parce que son règne n'est pas un règne terrestre, c'est un règne céleste, un règne où il veut régner dans les cœurs et non pas sur les populations. Donc le Seigneur est un roi crucifié, pas un roi qui s'impose. D'ailleurs, au-dessus de lui, il est marqué « Celui-ci est le roi des Juifs ». Et vraiment, il l'est, même si Pilate, quand il a fait mettre cet écrit, l'a fait mettre pour se moquer des Juifs et pour se moquer de Jésus. Mais il y aura quand même quelqu'un qui ne l'insultera pas, c'est ce fameux bon larron, donc ce malfaiteur, qui dira au Seigneur « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume ». Eh bien lui, Jésus peut déjà lui promettre le paradis. En vérité, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Voilà. Alors si nous lisons ce texte, c'est parce que nous aussi, nous avons besoin sans cesse de nous convertir. Peut-être que nous n'avons jamais insulté Jésus sur la croix, mais tant mieux si on ne l'a jamais fait. Mais qui peut dire qu'il n'a jamais eu de pensées insultantes sur son voisin, sur quelqu'un qui l'agressait, sur quelqu'un qui l'insultait? C'est la première chose qui nous monte parfois dans notre cœur. Quand on est mis en cause, on a tout de suite des choses très insultantes qui nous viennent. Et quand on n'est pas capable de faire barrage à ces pensées très rapidement, elles vont aussi sortir sur nos lèvres. Voilà. Et quand on insulte quelqu'un, d'une certaine manière, c'est toujours un peu Jésus qu'on insulte. Même si cette personne nous a insultés, quand on insulte quelqu'un d'autre, c'est toujours, d'une certaine manière, Jésus qu'on insulte. Donc à travers cet évangile, le Seigneur veut nous dire, eh bien, demandez-moi un cœur qui soit doux et humble. Demandez-moi cette force de la douceur. Parce que pour être doux, il faut être fort. Pour être violent, il suffit d'être faible. Il suffit de laisser parler la violence en nous. Et pour maîtriser cette violence en soi, il faut avoir beaucoup de force. C'est la force de la douceur. La douceur n'est pas une faiblesse, c'est une très grande force. Cette force, il ne suffit pas elle ne vient pas simplement de nous, elle vient aussi de l'Esprit Saint qui transforme notre cœur et qui donne à notre cœur la capacité de faire la paix. Fais de nous des instruments, fais de moi un instrument de paix, demandait Saint François d'Assise. Eh bien, nous avons tous à faire cette prière parce que tous, à des moments donnés, nous allons tomber sur des personnes qui vont être violentes, qui vont être mal lunées, qui vont, etc. Et à ce moment-là, il suffit d'une seconde pour que, paf, ça part de notre côté. Mais si on est dans la prière, dans la paix, on est capable de se taire, de partir, de fuir, enfin, faire un tas de trucs qui vont faire qu'on ne va pas répondre. On aura l'air d'avoir perdu, mais en fait, celui qui ne répond pas, c'est lui qui a gagné dans le cœur de Dieu. Donc le Seigneur nous invite à l'humilité. Et pour aller vers l'humilité, comme Jésus est humble sur la croix, nous montrant l'humilité de Dieu, bien parfois, il faut accepter les humiliations. C'est par les humiliations qu'on va vers l'humilité. Quand on accepte les humiliations, on peut devenir vraiment humble. Et c'est ce que le Seigneur veut nous montrer, parce que l'humilité, c'est la porte du ciel. La petitesse, l'humilité, c'est la porte du ciel. Voilà, maintenant je vais demander à Anna de venir. Voilà, donc je vais lire le témoignage d'Anna, après elle vous dira quelques paroles. Je l'ai écrit, elle m'a raconté son histoire, je l'ai écrit, puis j'ai fait vérifier le témoignage par Anna. Anna est d'origine musulmane. Elle a subi de la maltraitance dans son enfance, mais elle a toujours pensé que Dieu existait. Elle a fréquenté des écoles privées catholiques où elle a reçu les rudiments de la foi chrétienne, mais sans devenir elle-même chrétienne. Comme elle a beaucoup souffert dans son enfance, elle s'est révoltée et elle a fait, m'a-t-elle dit, les pires choses, d'autant que ses parents étaient aussi plongés dans l'occultisme. Ils faisaient l'occultisme, donc ça n'aidait pas non plus. Anna s'est mariée, mais elle a rencontré beaucoup d'épreuves dans son mariage, notamment le fait d'avoir perdu deux enfants en bas âge. Son mari est militaire, et il a dû accepter de voir partir sur des théâtres d'opération, notamment en Irak. Il y a 3-4 ans, Anna a décidé de se préparer au baptême. Elle a partagé sa foi avec son enfant qui avait à l'époque 6 ans. Et à ce moment-là, cet enfant a commencé à dire qu'il avait des paroles divines. Et Anna l'a cru. Mais elle ne s'est pas tout de suite rendue compte qu'en fait, derrière ces paroles divines, c'est un esprit mauvais qui parlait dans cet enfant. Et tout ça parce que dans la famille, il y a de l'occultisme qui venait des parents d'Anna. Donc Anna, comme elle n'avait pas d'expérience, elle a cru que cet enfant, quand il parlait, ça venait de Dieu. Ben, c'était pas de Dieu. Elle s'en est pas rendue compte tout de suite. Et puis, son mari est tombé malade. L'esprit, à travers l'enfant, a dit que ce n'était pas grave. Mais à un moment donné, Anna a quand même amené son époux à l'hôpital. Et là, on a découvert qu'il était dans un état critique. Il avait un cancer très avancé au stade 4. Il a alors commencé une chimiothérapie très lourde en décembre 2016. Mais du coup, son mari s'est mis à beaucoup prier, alors que même à lire la Bible tous les jours, alors que jusqu'à présent il ne priait pas, il avait une pratique religieuse très réduite, et il critiquait Anna parce qu'il lui disait qu'elle était trop pratiquante. En Noël 2016, les médecins ont permis à son mari de quitter l'hôpital 3 jours. Et alors son mari a décidé d'aller à Lourdes avec Anna, malgré les risques, compte tenu de son état extrêmement grave. Une fois arrivés à Lourdes, ils ont prié la Vierge Marie, bien sûr, Jésus, mais les médecins de Paris ne les ont pas laissés rester longtemps sur place, parce qu'entre-temps, ils ont reçu les derniers résultats de son mari, et ils découvrent qu'ils sont plus catastrophiques que prévu, donc ils leur disent qu'il faut revenir tout de suite, là, vous ne pouvez plus quitter l'hôpital. Son mari avait alors beaucoup de ganglions partout, mais il revient à l'hôpital, mais surprise, 3 semaines après être rentré de Lourdes, les examens montrent qu'il n'y a plus rien du tout. Et le médecin dit, au stade où vous en étiez, je n'ai jamais vu ça, comme si votre corps n'avait jamais rien eu. Tous les ganglions ont disparu, donc par sécurité, le médecin lui a quand même fait terminer la chimiothérapie, mais il n'y avait plus rien. Quand son mari était malade, les parents d'une collègue de son mari étaient venus prier pour lui à Saint-Nicolas-des-Champs aussi. Et donc, cette collègue parle alors à Anna de la prière de Saint-Nicolas-des-Champs en lui disant qu'elle était venue prier pour son mari aussi. Mais Anna n'y vient pas parce que pour l'instant, elle a des problèmes avec sa fille. Non, elle sait que ce n'est pas Dieu qui parle en sa fille, mais c'est un esprit mauvais. Depuis qu'Anna ne suit plus les paroles de sa fille, cet esprit mauvais qui était venu sur sa fille se déchaîne contre Anna et contre sa fille, parce qu'il est en colère, parce qu'on ne le croit plus. Et du coup, les deux souffrent des mêmes symptômes en même temps. Quand l'une est attaquée, l'autre aussi, même si elles ne sont pas au même endroit, elles souffrent des mêmes symptômes. Ensuite, elles peuvent se dire, t'as souffert de ça, et l'autre lui dit, ben oui, exactement comme moi, etc., etc. Donc les mêmes attaques. Du coup, Anna a demandé à des prêtres de prier pour sa fille et pour elle-même. Et finalement, il y a un prêtre de Notre-Dame de Paris qui lui parle de Saint-Nicolas-des-Champs. Comme elle a entendu parler, puisque cette collègue était venue prier son mari à Saint-Nicolas-des-Champs, cette fois-ci, elle décide d'y aller avec sa fille. Et c'était la première prière des malades en septembre 2017. Il y avait un monde fou. Et Anna laisse une place assise à une personne qui en a besoin. Et pendant la prière, une parole de connaissance annonce que le Seigneur va faire un cadeau à une personne qui a laissé sa place libre. En fait, depuis, Anna a reçu plein de cadeaux. D'abord, à partir de cette prière des malades, sa fille a été totalement libérée de l'esprit. Il ne vient plus sur elle, ne lui embête plus. Elle n'entend plus parler. Donc, très bien. Le Seigneur l'a libérée, elle ne souffre plus. Anna est encore attaquée, m'a-t-elle dit, mais beaucoup moins violemment. Et Jésus lui a dit, rends grâce quand tu es attaquée, parce que les démons ne supportent pas cela. Donc, rends grâce. Et le plus grand cadeau que Anna a reçu, c'est la conversion de sa maman. Donc sa maman, qui est, je vous rappelle, d'origine musulmane, était très réfractaire et très hostile à la religion chrétienne. Le 27 novembre 2017, elle a accepté de venir rencontrer un prêtre de la paroisse d'Anna pour parler avec lui et Anna. Et le lendemain, sa maman vient à la prière des malades à Saint-Nicolas-des-Champs, donc la discussion s'est bien passée avec le prêtre, et ils viennent aussi avec le frère d'Anna. Pendant la prière des malades, Anna, surprise, voit sa maman se mettre à genoux devant le Saint-Sacrement quand le Saint-Sacrement passe dans elle, alors qu'il y a quelques semaines, elle ne voulait pas entendre parler de la religion chrétienne. Elle se met à genoux quand le Saint-Sacrement passe et elle voit sa maman parler au Saint-Sacrement. Incroyable. Alors qu'elle ne connaît rien à la foi chrétienne. Et elle dit, depuis sa maman a changé. Elle dit, depuis elle est devenue une vraie maman pour moi. Son cœur a changé. Elle a commencé un chemin, elle n'est pas baptisée pour l'instant, elle commence à prier Jésus, à prier la Vierge Marie. Et quelques jours après la prière des malades, où elle est venue, elle a reçu la manne de Saint-Nicolas le 6 décembre 2017. Et chez elle a fait un petit coin prière pour prier Jésus et Marie. Et alors Anna vient de me dire aussi qu'elle a reçu une grâce récemment, parce que la semaine dernière, il y a une parole de connaissance qui disait qu'il y a une personne qui chemine dans la foi, qui n'a pas encore vraiment la foi, et va avoir une vision du paradis. Peu de temps après, il y a sa maman qui appelle Anna, et sa maman lui dit, tu sais, j'ai fait un songe incroyable. Et Anna lui dit, oui, je sais, t'as vu le paradis. Et sa maman lui dit, mais comment tu sais? Et donc, elle a vu le paradis, je crois qu'elle a vu même des personnes de sa famille dans son songe. Donc le Seigneur l'aide beaucoup à cheminer dans la foi chrétienne. Amen, merci Seigneur. C'est pas terminé. Revenons à la prière des malades, il y avait la maman d'Anna, la fameuse prière où elle s'est mise à genoux devant Jésus. Il y avait aussi le frère d'Anna. Le frère d'Anna, il est addict à la drogue depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'il est dans la drogue. Anna avait réussi plusieurs fois à le faire venir jusqu'à Saint-Nicolas-des-Champs, et à chaque fois, au moment d'entrée, il était reparti. Il refusait d'entrer dans l'église. Cette fois-ci, il a accepté d'entrer avec Anna et sa maman. Et pendant la prière, Anna, qui le regardait de temps en temps, l'a vu complètement changer. Il avait un regard très sombre, très obscur, fermé. Pendant la prière, elle a vu son regard redevenir beau, brillant, comme quand il était enfant, avant qu'il soit drogué. Et à un moment donné, il a levé le pouce comme ça pour dire « Anna, c'est formidable !» Et puis à un moment donné, il a dit à Anna dans son oreille, une parole que Anna a complètement hallucinée, quand elle a entendu cette parole, il lui a dit « Jésus a toujours été dans mon cœur !» Ça fait 20 ans qu'il est drogué, et il est capable de dire « Jésus a toujours été dans mon cœur !» Comme quoi, il ne faut jamais désespérer de quoi que ce soit, ni de qui que ce soit. Anna, évidemment, n'en revenait pas. Elle n'aurait jamais attendu une telle déclaration de la part de son frère. Et maintenant, elle espère pouvoir cheminer avec son frère pour lui permettre de s'ouvrir, de suivre une thérapie. Donc les choses avancent progressivement pour que son frère puisse sortir de la drogue. Voilà, merci pour ce super témoignage. Anna, elle va vous dire maintenant quelques petites choses sur le désir.
Alors je souhaite tout d'abord rendre grâce à Dieu et puis donner ce témoignage en action. J'ai eu la colère, j'ai été vraiment horrifiée de mon enfance et de ce que j'avais pu subir. Et j'abîmais la vie, j'abîmais ma vie. Je suis passée par des ténèbres et des choses vraiment horribles. Je me suis remise entre les mains de n'importe qui, des voyants, des guérisseurs. J'étais vulnérable, une fois. J'achetais de l'espoir, éphémère. Et quand on souffre, on est prêt à croire n'importe qui. La seule personne envers qui je n'étais pas confiée, c'était le Christ. Et quand j'ai voulu faire ce parcours de conversion, j'avais sur moi des tonnes de péchés. J'avais honte. Je ne me sentais pas capable d'être accueillie. Pas digne. Et là, j'ai rencontré un père aimant. De l'amour, un vrai amour, des bras grands ouverts, qui ne regardait pas ma faute, qui regardait ma faiblesse et qui m'accueillait. Ça me fait penser à ma fille, quand elle vient me voir et qu'elle me dit « J'ai commis une erreur, je la regrette vraiment, pardonne-moi, je sais que tu avais raison, et j'ai envie vraiment de te faire plaisir. Ben, j'ai envie de lui dire à ma fille, c'est je t'aime, je crois en toi, et je vais t'aider et je te pardonne. » Et c'est vraiment ce que le Seigneur m'a accordé. Et il m'a comblé. Quand il a dit qu'il m'offrirait un cadeau, j'ai pensé à cet enfant, ce second enfant que j'attends depuis des années. Et là, je me suis rendu compte, au final, qu'effectivement, il m'avait exaucé, il m'avait donné la vie à moi-même, à ma fille et à mes proches. Une vie qui n'a pas pris. Alors, merci Seigneur, que ta volonté se fasse. Amen.
Merci beaucoup, madame. Voilà, un témoignage vraiment très fort et très bouleversant. Mais c'est surtout pour que nous, on se laisse aussi toucher dans notre cœur et qu'on fasse vraiment confiance au Seigneur, où que nous soyons, même si on pense qu'on a 10 000 péchés sur nous, des milliards de péchés. Vous voyez que Anna nous dit que Jésus ne regarde pas cela, il veut nous aimer et veut nous amener vers l'amour.